L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Est-ce que vous avez déjà rêvé de gagner au loto? Peut-être de gagner des millions, voire des dizaines de millions. Mon invité du jour, lui, sa fortune, elle est estimée à plus de 300 millions d'euros. C'est sans doute l'une des personnes les plus riches que je connaisse. Et il s'agit d'Éric Larchevêque, que vous connaissez peut-être pour l'émission qui est diffusée sur M6, autour de l'entrepreneuriat. C'est aussi le cofondateur de Ledger. Et avec Éric, on va parler évidemment d'entrepreneuriat, on va parler de sa vie, on va parler surtout des sacrifices, de toutes les problématiques que ça peut créer de devenir un entrepreneur, de gagner autant d'argent. Parce qu'en fait, on n'y pense pas nécessairement tout de suite, mais en réalité, la vie d'entrepreneur, et vous allez voir sa définition de ce qu'est être riche, vous allez voir que vous êtes sans doute, pour certains d'entre vous en tout cas, riche dans sa définition où il le définit lui. C'est ça que je trouve intéressant dans cet épisode, c'est de comprendre c'est quoi la vie de ces personnes, c'est quoi la vie d'Éric en l'occurrence, et à quoi ça peut ressembler. Il a écrit un livre qui s'appelle « Entreprendre pour être libre », ça dit déjà pas mal de choses, et dans lequel il donne des conseils aussi pour être entrepreneur, et vous allez voir, on le couvre aussi évidemment, qu'est-ce que c'est que la vie d'entrepreneur, quelles sont les problématiques d'un entrepreneur, pourquoi on doit devenir entrepreneur, comment on fait pour avoir de la chance, est-ce qu'on la crée, est-ce que c'est tout l'enjeu, est-ce que c'est d'avoir une bonne idée. Bref, c'est toutes ces questions-là qui me semblent, moi, essentielles. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, Éric.
Salut.
Comment tu vas?
Super.
Comment tu te sens, surtout?
Je suis très bien et très heureux d'être de retour dans ton podcast.
Ouais. On avait fait un épisode il y a très longtemps.
Oui.
Sur la blockchain et les impacts sociétaux de la blockchain.
Ouais,
c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
Voilà.
On va y revenir, mais une des choses que je me dis, en tout cas sur moi et quand je parle avec les personnes autour de moi, c'est souvent le cas. Ce qui nous forge aujourd'hui quand on est adulte, c'est souvent son enfance. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur ton enfance pour savoir et pour comprendre le Éric Larchevêque d'aujourd'hui.
Je pense qu'il faut comprendre que j'étais fils unique, que j'avais beaucoup d'espace, j'étais à la campagne, et que j'avais donc besoin de m'imaginer beaucoup de choses pour passer du temps. Et donc j'avais besoin de construire, j'avais besoin d'imaginer des aventures. Et lorsque j'ai croisé la route d'un ordinateur et que j'ai pu utiliser cet ordinateur pour donner vie à toutes mes idées, c'est ça qui a un petit peu construit ma future carrière d'ingénieur, en tout cas. Cet espace que j'ai cherché à combler, je pense, est un début de réponse.
Il y a cet espace et il y a aussi, tu en parles beaucoup, de cette quête de liberté et du lien avec ton père. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton père parce que c'est hyper intéressant, c'est fondateur, j'ai l'impression, dans la manière dont tu as décidé d'entreprendre.
Oui, pour savoir que je viens d'une famille de porcelainiers, mon arrière-grand-père Marc Larchevêque avait créé l'usine de porcelaine Larchevêque à Vierzon, là où on habitait. Donc, et ça a été transmis de père en fils. Et donc, mon père avait plutôt fait des études de chimie et son rêve, c'était de partir explorer le monde pour être prospecteur pétrolier. Et un jour, malheureusement, son père, donc mon grand-père, décède. Et il est le seul dans la famille à vraiment pouvoir reprendre l'entreprise familiale, donc de porcelaine. Et malgré lui, il en hérite, il en devient le patron. Et il va passer donc sa vie à gérer l'entreprise, à le faire au mieux, à bien le faire, mais à toujours regretter en fait de ne pas s'être échappé. Et je l'ai toujours vu portant le poids de son entreprise, de ses responsabilités, et le regard vraiment porté vers les loins espaces, en voulant s'enfuir. Et il me disait, ce qu'il aimait me répéter, c'était pas de famille, pas d'amis, pas d'enfants, pas d'entreprise, pas d'emmerde. Enfin, prends ton sac à dos, barre-toi loin d'ici et vis seul, empli de liberté, quoi.
Et tu dirais quoi, toi, aujourd'hui, de des apprentissages de ton père? Enfin, de ces phrases, en tout cas.
En fait, que ça fait beaucoup de place, ça laisse beaucoup de place à une forme d'égoïsme. Parce que finalement, le fait de vouloir prendre sa liberté pour soi-même, en oubliant un petit peu les autres, et le faire, et pas juste le rêver, parce que lui, il le rêvait, mais il le faisait pas, donc il n'était pas dans cet égoïsme, au contraire, il était là. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, je pense, de fondamentalement égoïste, parce qu'il fait passer sa passion, son entreprise devant tout, même devant sa famille. Et quand on dit que j'entreprends pour être libre, il y a une énorme. Il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. Parce que quand tu es libre, forcément, tu dois te détacher des autres. Et c'est pas facile. Dès que tu te rattaches aux autres, tu perds de la liberté. Et c'est un constat assez froid et clinique, mais qu'on peut pas non plus balayer d'un revers de main. Et on doit l'accepter. On doit accepter, en fait, sa part d'égoïsme dans cette équation.
Comment tu... Parce qu'en fait, tu en parles. Donc, juste pour la petite histoire, nous, on s'est rencontrés, c'était en 2013, si je me trompe pas. Donc, ça fait 10 ans.
Oui.
Aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec ta femme il y a...
Iveta, oui.
Iveta, il y a donc, 20 ans.
Ouais.
Et donc, c'est elle qui nous a présenté il y a très longtemps. Et donc, j'aimerais bien comprendre, on lui passe le bonjour déjà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Comment tu as su gérer, ou comment tu as pu gérer, ou comment vous avez géré cet égoïsme que tu avais par définition, parce que toi, tu es un entrepreneur dans l'âme, tu as fait des tonnes de choses. Comment tu as pu gérer ça en ayant des enfants, une femme Parce que, par définition, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de l'éducation des enfants. Enfin, je veux dire...
Oui, c'est forcément quelque chose que tu dois gérer d'une manière générale. Et déjà, la première chance que j'ai eue, la première réponse, c'est Iveta. C'est que j'ai eu une femme extrêmement compréhensive. Et du reste, je l'avais prévenue. C'est-à-dire que quand on a décidé de passer aux choses sérieuses, je lui expliquais que j'étais entrepreneur, que les projets allaient toujours passer avant. Et que c'était ma mission, mon objectif. Et donc, elle m'a épousé en connaissance de cause. Et donc, même si j'ai toujours été un peu présent, c'est vrai que j'étais pas là à l'emmener au restaurant, à faire des trucs, etc. Et quand on a eu des enfants, je pense que j'ai essayé de faire au mieux, mais j'ai quand même pas mal laissé Iveta gérer. Clairement, si on me pose la question entre l'équilibre pro-perso, pour moi, il n'y a qu'une réponse, il n'y a pas d'équilibre. Tu choisis, et moi, j'ai choisi le pro. Et bien sûr, tu payes, il y a une addition à la fin, tout ça, ça a des conséquences. Mais la première étape, c'est déjà de l'assumer et de ne pas se mentir à soi-même, et au moins de voir les choses. Et moi, je l'ai toujours vu comme ça. Et à partir du moment où tu dis les choses, que tu le sais, que tu vis pas une fausse vie en faisant croire quelque chose, mais que déjà ça se passe quand même mieux, et si l'autre accepte, bon, tu peux réussir à construire une entreprise à 1 milliard sans pour autant te retrouver en instance de divorce, quoi.
Ouais, parce que c'est ça aussi, c'est que parfois, moi je l'ai vu chez certains entrepreneurs, une sorte de... Je sais pas si le mot c'est dédain, mais tu vois, de non-reconnaissance de l'effort... que la compagne, ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs, a dû consentir pour que l'autre personne puisse s'épanouir dans son entrepreneuriat.
C'est une base arrière forte, c'est le camp de base. Et moi, c'est parce que j'avais un camp de base extrêmement solide avec Iveta, très compréhensif, qui était tout le temps derrière moi. Et quand j'arrivais à la maison, je me tapais pas en fait une tonne d'injures domestiques. Non, pas du tout. Bien sûr, elle a tenu le fort à la maison, elle a géré, et on a vraiment fait équipe de ce côté-là. Et c'est sûr que sans elle, ça aurait été très compliqué.
Tu parles beaucoup tu parles de ta mère aussi dans
le livre. Au début, oui.
Au début. Je me posais plusieurs questions. La première, c'est comment on gère d'avoir été éduqué par une mère qui était danseuse? Parce qu'il y a une forme de rigueur, il me semble, je ne sais pas.
Ah, c'était une artiste, donc elle avait une forme de rigueur extrême dans son école. C'est quelqu'un qui a fait l'Opéra de Paris, qui ensuite a travaillé dans des ballets et qui était plutôt, on va dire, c'est la vision Union soviétique, en fait, de la rigueur de l'éducation du gymnaste. Et donc, elle avait une école à Vigneux-sur-Barangeon, à côté de Vierzon, dans le Cher, dans le Berry. Et elle a réussi, dans un village de 2000 habitants, à envoyer 3 élèves au conservatoire et à l'Opéra de Paris. Donc, ça se fait avec une rigueur. Et les parents étaient parfois un peu terrorisés, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient que c'était, on allait jouer au tutu, etc. Et ma mère était, elle lâchait rien du tout. Et elle arrivait à tirer un talent incroyable de la part de ses élèves. Mais c'était effectivement au prix d'une rigueur exceptionnelle et d'un travail exceptionnel. Et ce que m'a appris, en fait, ma mère, et ce qu'elle m'a montré, et là où elle m'a inspiré, c'est qu'elle m'a montré qu'il y a des talents partout. Et que ce qui compte, c'est d'avoir les bons professeurs. D'où la notion importante de l'éducation, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et à partir du moment où tu arrives à amener le bon professeur, la bonne personne aux élèves, aux apprenants, aux jeunes, eh bien, la bonne rencontre peut complètement faire changer et bouleverser toute une vie et créer des ambitions, ouvrir une voie.
Et tu dirais que, on va revenir sur l'éducation, hein, mais tu dirais que cette rigueur, elle t'a accompagné dans ton amour de l'informatique ? Parce qu'en fait, il y a une forme de rigueur aussi.
Alors, tu dois être... Oui, il y a une forme dans l'informatique, tu as un minimum d'analyse de rigueur. Tu peux pas... Je, je,